that I would not. I feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got you.
I feel good sur RCN, Christophe Chevardet.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans I Feel Good, 30 minutes pour profiter des ondes positives de mon invité, 30 minutes pour aller à la rencontre d'un homme ou d'une femme, cette fois-ci c'est un homme, qui va nous partager ce qui lui donne envie d'agir, envie de se bouger, plus exactement il va nous donner envie de se bouger, il va nous donner envie d'aller nous rendre à Saint-Nicolas-de-Port entre autres. Madame, mesdemoiselles, messieurs, c'est lui qui orchestre ce spectacle extraordinaire Nicolas Laos à Saint-Nicolas-de-Port. Madame, mesdemoiselles, messieurs, il joue en local pour une fois, c'est Damien Fontaine.
So good, so good, I got you.
Et pour ceux qui regardent en vidéo, autour de la table également, alors deux enfants, deux grands enfants, bonjour à Eugénie, bonjour Eugénie.
Bonjour.
Et bonjour à Maëlle.
Bonjour.
Ça va Maëlle ?
Ça va et vous ?
Ouais, ça va, la forme. Une chose extraordinaire, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez à votre papa. Vous n'hésitez pas. Toutes les questions que vous n'avez jamais osé poser à votre papa, c'est maintenant ou jamais. Vous pouvez y aller. Et puis, à côté de Damien, également, Francis. Salut Francis, tu fais partie de la bande de bénévoles qui prennent part peu ou prou. À ce spectacle. Bonjour Damien.
Bonjour Christophe.
Très 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 heureux de t'accueillir. Au-delà de l'actualité qui fait que ça commence, on a la générale ce soir, mais on a le spectacle pendant quelques jours maintenant, mais c'est une aventure humaine qui a commencé, t'étais tout petit.
Oui, oui.
Cette envie de faire des spectacles.
Ouais, ça remonte, effectivement. Je pense que c'est à l'adolescence que ça s'est vraiment précisé, en tout cas, l'envie de raconter des choses et de le faire à travers un mode d'expression qui s'est assez vite proposé ou présenté à moi, des spectacles, alors, d'abord extérieurs, puis progressivement en intérieur, en tout cas, voilà, des choses qui... ce qui m'a toujours intéressé, c'était la rencontre et la communion avec les gens, donc le public, et je trouvais que les spectacles que je pouvais voir et qui commençaient à se déployer dans les années, fin des années 80, des débuts des années 90, avec des nouvelles technologies, allait offrir, et on le voit aujourd'hui, des champs d'exploration vraiment, vraiment nouveaux. Et c'est ce qui, vraiment, moi, m'a toujours inspiré à travers ce que j'ai pu faire. Ouais.
Comment tu décris et définis tes spectacles d'aujourd'hui ?
On me demande souvent de donner un nom. Ouais, alors, je les appelle un peu improprement des spectacles multimédia, immersifs, puisque c'est un mot aussi à la mode. Mais c'est vraiment ce côté... interactif et immersif que j'ai toujours essayé d'affiner et de développer à travers le temps. Et alors, je le disais, des spectacles extérieurs peuvent être immersifs, là on en parlera, mais ces spectacles en intérieur et de surcroît dans des églises ou des cathédrales ont l'avantage d'être donnés dans des lieux dans lesquels justement on n'a pas l'occasion de voir ce genre d'initiative, et donc ça amène un supplément, j'allais dire, et d'humanité et de spiritualité dans ce qu'on peut présenter et proposer.
Parce que ces lieux, là c'est Saint-Nicolas-de-Port, en ce moment tu te donnes beaucoup là, Saint-Sulpice à Paris, Lyon, alors j'adore le titre de Lyon.
Lyon est de la lumière, ouais, c'est un spectacle dont le premier opus avait été présenté en 2021, premier opus qui explorait finalement les origines chrétiennes de Lyon, donc les premiers martyrs à Lyon en l'an 177. Et là, je m'étais vraiment intéressé à une frange de l'histoire très courte, hein, très courte sur deux ans. Et quand on a décidé de repartir après le beau succès de la première édition sur une nouvelle représentation, il a fallu trouver un nouveau sujet, et celui-ci nous embarque bien plus tard, puisque là on est en 1700 et on va jusqu'en 1940. Le sous-titre de Lyon et de la Lumière cette année, c'est le médaillon de Saint-Jean, et c'est un médaillon qui se transmet de protagoniste en protagoniste. Des personnages que l'on connaît, qui sont des figures importantes lyonnaises, ou pas. et qui finalement ont tout en commun, je dirais, d'avoir justement une part de spiritualité, voilà, qui leur est propre. On y rencontre Ampère, qu'on connaît bien sûr pour ses travaux dans l'électrodynamique et dans la physique. On y rencontre des gens beaucoup moins connus, mais justement qui incarnent chacun une partie de leur époque. Et voilà.
Alors quand on voit Damien Fontaine, l'annonce de ses spectacles, on voit souvent des bâtiments églises, on voit de la lumière, des couleurs, donc il y a beaucoup d'images, il y a un peu de son. Il y a aussi un spectacle, il y a un jeu avec 200 bénévoles par exemple qui sont mobilisés,
oui,
pour Saint-Nicolas-de-Port.
Alors ça, c'est vraiment ce que j'ai toujours...
C'est pour que les gens qui ne connaissent pas puissent... constituer une représentation de ce qu'ils vont voir ou peuvent voir.
Ce que j'ai toujours défendu, c'était l'idée d'avoir un spectacle qui garde justement cette part de vivant. Et ça m'a toujours intéressé. Je pense que ça vient aussi de mon enfance où j'avais la chance d'avoir un curé dans ma paroisse qui m'a beaucoup initié à la fois et à la musique et au théâtre. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi.
C'était qui ?
Mais c'était l'abbé Févé, et qui était un acharné de théâtre. Mais pour le coup, on montait des pièces de vaudeville avec lui et pas que. Mais il avait une exigence incroyable dans la mise en scène, c'est-à-dire que voilà, faire du théâtre avec lui, ça nécessitait de se plier un certain nombre de choses qui sont finalement des choses dogmatiques par rapport à la mise en scène et au théâtre. Donc ça m'a beaucoup intéressé, et quand j'ai commencé à travailler des spectacles, j'ai toujours eu envie d'intégrer soit des figures, entre guillemets, mais des figures chorégraphiées, des choses avec beaucoup de personnages, soit de raconter une histoire plus scénarisée et de le faire à ce moment-là à travers des acteurs, des comédiens, et pour beaucoup, et c'est ce que je développe beaucoup présentement, des figurants amateurs éclairés qui portent finalement les différents personnages du récit qui est présenté.
Alors tu dis scénarisé, s'inspirant pourtant de la réalité ou de l'histoire ou de la narration historique, t'y rajoutes une part d'imaginaire ?
Oui, c'est-à-dire que, en fait, ça dépend des lieux. Si on prend l'exemple, là, on parlait
Saint-Nicolas-de-Port, on a Camille.
Je vais revenir à Saint-Nicolas, mais si je prends l'exemple de Saint-Sulpice, qui est l'autre spectacle qui se joue en ce moment à Paris, c'est un spectacle que j'ai imaginé autour de la construction de l'église de Saint-Sulpice, qui va de 1640 aux veilles de la Révolution française. Et donc, c'est une période extrêmement riche sur le plan de l'histoire de France, puisqu'il y a la Fronde, il y a toutes les dragonnades qui sont menées par Louis XIV contre les hérétiques encore protestants, il y a la révocation. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont très fortes, y compris dans la capitale. Mais moi, ce qui m'a beaucoup plus intéressé, plutôt que de donner un cours d'histoire, c'était d'enraciner le propos à travers quelques personnages romanesques, donc imaginaires, mais qui tous finalement s'inscrivent dans la réalité historique du moment qui est présenté. Donc ça, voilà, ça c'est pour le roman de Saint-Sulpice à Paris. Et si on s'intéresse au spectacle qui va être proposé là à Saint-Nicolas-de-Port, c'est à la fois évidemment un récit qui s'appuie sur l'histoire de Nicolaos dans l'Antiquité, l'histoire de la bataille de Nancy qui a été un moment décisif dans le fait que ce saint Nicolas, qui était un saint parmi tant d'autres en Lorraine, devienne du jour au lendemain le patron de la Lorraine, puisque René II avait fait le vœu, dans la mesure où s'il venait à gagner la victoire sur le Bourguignon, Charles le Téméraire, voilà, de construire une basilique pour ce Saint-Nicolas qui n'avait à l'époque qu'une toute petite chapelle. Et il y a effectivement une troisième temporalité dans ce spectacle, et c'est ce qui fait toute la singularité de ce qui est proposé ici à Saint-Nicolas-de-Port, c'est Camille Crouet-Friedman, qui est pour le coup un personnage avéré, historique, qui en 1980... a fait à sa mort un legs incroyable de 7 à 8 millions de dollars de l'époque, ce qui, je pense, devrait représenter entre 15 et 20 millions d'euros d'aujourd'hui. Et du coup, le legs est devenu le prétexte à raconter sa vie. Alors, pour une large partie tirée d'événements réels qu'on a pu retrouver, et puis pour une autre partie des choses plus romanesques, puisqu'au départ elle est à Saint-Nicolas-de-Port dans sa jeunesse, et elle part pour les États-Unis. Et le pourquoi de son départ, on ne le connaît pas vraiment, et c'est moi qui l'ai un peu imaginé. Elle y revient, et on sait qu'elle y est revenue beaucoup. Elle a rencontré un richissime homme d'affaires américain. Elle-même s'est beaucoup illustrée dans la mode, dans le cinéma et autres, ce qui est évoqué dans le spectacle. Et puis surtout, en 1933, elle avait pour passion de faire beaucoup de croisières. Et à ce moment-là, elle croise l'île de Chypre, elle est à bord d'un immense paquebot. Et ce paquebot va heurter quelque chose. Alors, c'est pas le Titanic, hein, mais c'est à un moment donné, il y a vraiment un naufrage qui est possible. Il y a une vraie peur au sein de tout l'équipage et de tous les passagers. Et elle se souvient d'ailleurs, à ce moment-là, que le roi Saint-Louis, qui lui-même revenait de croisade, et c'est quelque chose qu'elle avait entendu enfant, avait failli trouver la mort par un naufrage. Et il en avait réchappé, et il avait fait le vœu à ce moment-là de donner un ex voto à ce Saint-Nicolas de la Lorraine, qui n'était pas encore le Saint-Nicolas aussi important qu'on connaît aujourd'hui, puisqu'il n'y avait pas encore cette basilique, etc. Mais elle s'est souvenue de ça, et c'est à ce moment-là qu'elle aurait pris la décision, peut-être en tout cas, de faire de même si elle avait un jour de l'argent, ce qu'elle a eu, beaucoup, et elle a fait à son tour un legs, à la fois en remerciement, je pense, de la vie qui lui avait été épargnée à ce moment-là, et puis parce qu'elle-même, étant originaire de Saint-Nicolas-de-Port, a voulu renvoyer l'ascenseur, j'ai envie de dire.
Ce récit, un peu des trois histoires de Saint-Nicolas, comment tu l'as construit? Comment t'es venu l'idée? Comment te viennent les idées de tes spectacles? En sachant qu'il y a quand même toujours une bonne base, pardon, je vais le glisser à ce moment-là, une base de spirituel quand même toujours.
Oui, parce que je crois que l'homme d'aujourd'hui et d'hier, enfin de tout temps, a toujours été habité par la spiritualité. Celui qui ne l'est pas, je le plains, j'ai envie de dire, parce que, voilà, quelle est notre place, finalement, au quotidien, dans cette grande humanité qui nous entoure. Ça, c'est quelque chose qui est propre à chacun. Pour certains, ça va être une réponse dans le sacré, dans la religion. Pour d'autres, ça sera quelque chose de beaucoup plus, immatériel, du moins difficile à signifier. Et d'ailleurs, ça se voit à la fois dans le public, mais dans les gens qui composent toutes les troupes de figurants, de volontaires qui sont autour de ces différents spectacles. Vous avez des gens qui viennent de la paroisse, vous avez des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans une église et qui me disent à la fin du spectacle, mais j'ai fait une cure pour toute ma vie, puisque j'ai jamais été autant avant et je ne risque pas d'y aller encore autant après. Mais vous avez quelqu'un, on parlait de Lyon tout à l'heure, qui lors du premier spectacle me dit « Non mais attends, moi il y a quelques années je chantais encore l'International, j'étais un marxiste de premier ordre, et là tu veux me faire jouer le rôle d'un évêque, j'ai mes copains qui vont venir me voir, t'as pas un autre rôle ?» Et il l'a joué avec brio. Donc ce sont des gens et qui continuent, qui sont revenus bien après sur d'autres spectacles, donc il y a vraiment une synergie qui se crée entre tous ces gens qui partagent finalement leur conviction, leur façon de voir les choses. J'ai fait en début d'année un spectacle à Mulhouse qui s'appelait Terra Alsacia, qui racontait finalement tous les ballottements des populations alsaciennes depuis la guerre de 70 jusqu'à la guerre de 1940. Et j'avais parmi la troupe quelqu'un qui me disait « Tu vois, c'est une belle preuve d'ouverture. Je suis habillé en officier nazi et je suis moi-même musulman au sein d'une église en train de jouer un spectacle tous les soirs. » Voilà, je trouve que là, on a atteint finalement ce sur quoi je m'étais beaucoup basé ou ce que j'avais envie de faire. C'est-à-dire, je ne dis pas ratisser large, mais ouvrir le plus large possible pour que les gens s'approprient ces lieux à leur façon.
Je sais que la question que je vais la poser à ton voisin, je pourrais imaginer la réponse, c'est lui qui m'a un peu harcelé en disant « Il faut que tu interviewes Damien Fontaine, il faut que tu interviewes Damien Fontaine. » Pas besoin qu'il me le dise, mais il y avait beaucoup d'insistance. Francis, qu'est-ce que ça t'apporte, cette participation? Est-ce qu'il y a un bout d'élévation, un bout de grâce?
Moi qui suis un ancien beatnik et qui suis toujours dans l'âme, Damien a quand même réussi à faire jouer un curé et un chrétien qui est torturé. Mais j'y prends énormément de plaisir. Mais le plus grand plaisir, c'est encore pas tout ça, c'est le fait d'être avec des gens où on est tous égaux. Il n'y a plus de riches, il n'y a plus de pauvres, il n'y a plus de moches, il n'y a plus de gentils, il n'y a plus de méchants. Tout le monde est sur le même plan d'égalité. Et on n'a qu'une idée, c'est que le spectacle tourne le mieux possible. Pas pour faire plaisir à nos metteurs en scène, ce n'est pas le problème, mais pour faire plaisir aux gens qui vont être là.
Ça m'impressionne parce qu'il n'arrête pas, il n'est pas le seul. Enfin, on le voit ici, on a de nombreuses sollicitations des bénévoles qui jouent le relais, non pas pour faire de la retape, de la promo, pour venir voir notre spectacle, pour dire que l'aventure est belle. Mmh. Ce n'est pas de la flagornerie, mais c'est... Damien Fontaine, expliquez-nous pourquoi il y a cette... c'est toujours comme ça, il y a toujours cette osmose un peu du bénévole... Et c'est le titre qu'ils emploient, ils ne disent pas comédien, ils ne disent pas acteur, ils disent bien bénévole à chaque fois. Je suis un peu surpris. Alors il y a quelque chose d'extraordinaire parce qu'on vit une aventure collective, mais qu'est-ce qui fait cette alchimie
Alors je pense qu'il y a une part de réponse à chaque fois dans la composition de toutes ces troupes. Et une autre chose que je peux souligner et qui montre justement qu'il y a cette envie de suivre ces aventures. C'est par exemple, je parlais de Paris. Paris, j'ai des comédiens bénévoles qui étaient sur le premier spectacle de Lyon, mais qui sont lyonnais. C'est-à-dire qu'ils sont venus prendre 15 jours, 3 semaines de vacances pour être sur le spectacle de Paris. Vous avez sur ce spectacle ici à Saint-Nicolas-de-Port une organisation qui est portée par l'association Voix et Lumière de Jeanne, qui initialement... est toute dévouée et dévolue au spectacle de Jeanne d'Arc qui avait été créé en son temps en 2012 sur le parvis de la basilique, qui a après eu beaucoup de choses, de modifications et autres, qui a porté le premier spectacle autour de Saint-Nicolas à l'intérieur de l'église de Saint-Nicolas à Neufchâteau, et qui aujourd'hui se retrouve embarqué pour à la fois produire, organiser un spectacle de cette ampleur ailleurs que dans son fief, et qui va même aussi travailler au prochain qu'on est en train d'imaginer à Metz. Donc voilà, je trouve qu'il y a dans la manière de faire beaucoup de choses que l'on voit à travers tous les gestes de ces gens au quotidien.
Et pour autant, Damien Fontaine choisit comme chanson « Je marche seul ». Damien, désolé, je sais qu'on l'aime tous, Jean-Jacques Goldman, je sais qu'on aime beaucoup Je marche seul, mais on a encore beaucoup de choses à se dire.
I feel good sur RCN, Christophe Chevardet.
Damien Fontaine, l'invité d'I feel good cette semaine, et puis il est venu avec ses enfants, et c'est Eugénie qui va poser la première question de cette deuxième partie.
Bah, pourquoi tu fais que des spectacles dans les églises et pas autre part?
Ah, j'en fais aussi autre part. C'est vrai qu'en ce moment, je me suis beaucoup recentré sur ces églises. C'est la première fois où j'en ai créé un à l'intérieur d'une église. C'était justement à Domrémy après ce spectacle sur Jeanne d'Arc qui avait été fait sur de nombreuses éditions en extérieur et où je souhaitais un vrai renouvellement. Et le fait d'investir à l'intérieur comme celui de la basilique de Domrémy a été une vraie révélation dans la manière dont les gens, je trouvais, le public là, appréhender le spectacle avec une vraie retenue, avec une écoute encore différente. On a parlé de Lyon tout à l'heure, qui m'avait approché pour au départ créer un spectacle sur l'extérieur, sur le parvis, mais eux-mêmes étant venus voir le spectacle à l'intérieur de la basilique, me disent bah, finalement, allons plutôt dans cet intérieur. Et quelque part, ça s'est...
Retrouver à l'intérieur, on va aussi à l'intérieur de soi un peu.
Oui, oui, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que quand le spectacle commence, et jusqu'à la fin, vous n'avez pas un bruit. Hein. Je trouve que c'est assez. Je trouve les gens encore plus dans la retenue que dans une salle de spectacle, un zénith ou autre, quoi, ou dans une salle de théâtre.
Maël, t'hésites pas. Hein. T'en as une de question ?
Ouais,
bah, vas-y.
Alors, comme l'a dit Eugénie, tu fais des spectacles dans des cathédrales, des églises, etc. Mais est-ce que tu voudrais aller plus loin ? Par exemple, t'es réalisateur entre guillemets, est-ce que tu voudrais par exemple, je sais pas, tourner un film un jour ou quelque chose comme ça?
Oui, alors c'est une question qu'on m'a souvent posée d'ailleurs. Et oui, c'est vrai que il y a des spectacles dont la forme même fait qu'on peut pas l'explorer autrement. Je sais que moi j'ai une écriture très cinématographique, parfois peut-être un peu trop pour certains spectacles. Donc c'est pas toujours évident de trouver les bonnes choses. J'ai un livre qui va bientôt sortir là ou qui m'a permis de d'explorer d'autres façons de raconter justement des choses qui sont pas du tout transposables en termes de spectacle, c'est absolument pas le but, mais de faire à travers différents moyens. Après, pour revenir à la question de génie, j'ai beaucoup fait de spectacles en extérieur et j'en ferai toujours beaucoup. C'est des autres moments de communion, et c'est vrai que je repense à une date en particulier en 2019 où j'avais eu la chance de faire le bicentenaire de l'indépendance de la Colombie. Alors, c'est marrant qu'un Français soit invité à faire le bicentenaire de la Colombie, et j'avais des artistes colombiens, français, etc., dans cette immense place qui est la place Bolivar à Bogota, et on jouait au final devant 1 million de personnes. Enfin, c'est des choses qu'on ne peut pas faire en intérieur pour le coup, et c'est un autre ressenti quand vous avez le drapeau colombien qui se déploie au milieu de la foule et que vous entendez la foule en délire vraiment hurler comme si c'était Madonna qui lançait sa petite culotte. C'est différent, quoi. C'est autre chose.
L'émission, c'est aussi la rencontre avec un invité. C'est à travers 3 dates importantes dans ta vie, Damien. On commence en 1989. C'est là où un peu tout a commencé, comme on dit à Don Rémy ?
Oui, c'est là où un peu tout a commencé. J'avais 14 ans. C'était une année charnière entre... Voilà, c'est dans mon adolescence. Je faisais beaucoup de musique classique. Et j'avais d'ailleurs un ami d'enfance qui m'avait dit à un moment donné « Mais tu devrais, comme ça, te mettre à faire des choses, à essayer des instruments électroniques, etc. » C'était un peu... pour moi, c'était un autre monde. Je ne connaissais pas. Hein. Et du jour au lendemain, j'ai commencé à acheter des choses. Ma mère, je me souviens, voulait m'acheter un orgue. C'était convenu d'ailleurs. Elle m'achetait un orgue j'ai encore le prix en tête, qui coûtait 14 000 francs. Et moi, j'ai découvert un premier synthétiseur qui coûtait 17 000 francs. Et elle me dit non, mais sans ça, ça ressemble à rien. Il y avait juste un clavier et trois malheureux boutons dessus. Elle me dit non, voilà. Et j'ai quand même réussi à ce qu'elle finance une partie, mais elle n'a pas tout acheté quand même. Mais ça a été le démarrage. Et puis, un premier concert que je m'étais obligé à faire, tout de suite, je me suis obligé à...
Donc avec le synthé alors.
Avec, ouais, il y avait ça, 3 boîtes de concert pour faire des lumières, des potes à moi hein, que j'avais mis à la guitare, et on investit une salle des fêtes à la marche au fin fond des Vosges. Il devait y avoir 50 personnes, encore beaucoup d'amis, et j'en sais rien, mais voilà, j'ai un souvenir, j'ai vraiment encore les images. Je crois même que ma maman avait à l'époque enregistré le carnage de cette première soirée. Mais en tout cas, j'en ai un souvenir ému, parce que c'était la première fois, des gens me faisaient confiance et j'investissais un lieu autrement. Voilà, je commençais.
Et avant, du solfège, du spectacle,
avant,
du théâtre, alors un peu la BFV, alors.
Oui, la BFV qui me met très, très tôt aussi en me disant, bah, parce que maintenant tu fais de la musique, il faut que tu tiennes l'orgue les dimanches, etc. Donc très vite...
Ça s'enchaîne un peu.
Ça s'enchaîne, beaucoup de théâtre que je fais l'hiver avec lui et avec d'autres, hein, mais qui, en tout cas, qui m'intéresse. m'intéresse.
Des études ?
Études, alors là, à l'époque, c'est des études de, classiques. Enfin, voilà, je suis au collège. Après,
sur Nancy, non ?
Alors, non, là, à l'époque, à Neufchâteau.
Ouais.
Enfin, à La Marche, justement, pour le collège.
Ah,
au, lycée à Neufchâteau. Et après, bah, puisque. Après, j'aurais eu très, très envie de faire quelque chose comme ingénieur du son ou autre, ouais. Parce que je sais pas trop quoi faire. Et puis, bah, mes parents ne me voyaient pas forcément trop là-dessus. Ils misaient plus sur des études un peu plus sérieuses. Donc, j'ai péniblement fait deux ans de fac de sciences, mais j'étais pas très très motivé. Et pour le coup, j'ai quand même réussi à intégrer une école d'ingénieur. Et j'ai fait une école d'ingénieur en géophysique. Mais c'était pas, je l'ai fait plus pour faire plaisir. Ça m'a pas déçu. Hein,
mais ça veut dire que tu avais la vocation déjà.
Ah oui, là c'était clair que je voulais faire autre chose.
D'accord.
Je ne savais pas comment, je ne savais pas si ça allait se faire en tout cas.
Du coup, le fiston qui a un peu envie de s'orienter vers ça, tu ne peux que l'encourager alors.
Alors je peux que l'encourager, mais je suis un peu comme mes parents. C'est-à-dire que je
gère la suite.
Voilà. je lui dis que effectivement, on ne peut pas qu'avoir une corde à son arc, et c'est bien d'en avoir plusieurs, et que en tout cas. On ne peut pas faire de cinéma et d'audiovisuel comme ce qu'il a envie de faire sans travailler. Ce n'est pas uniquement une part de chance et de rencontres. C'est avant tout beaucoup de travail. Et puis après, les rencontres font que ce travail qu'on a mis à profit peut se transformer en vrai. En
et vraie papa, chance. Stop. J'ai dit qu'il y a une deuxième question.
Mais juste, c'était quoi ton ressenti quand tu as fait ton premier spectacle? Tu avais stressé? Tu étais comment?
Ah oui, évidemment, oui, on est stressé, on est toujours au son. Enfin, je crois qu'on est même plus stressé quand on fait son tout premier spectacle devant quelques personnes que devant 40 000 ou 50 000 personnes qui arrivent d'un coup. Je crois que la première fois, elle est effectivement très, très éprouvante sur le plan du stress, oui.
Et donc, du coup, ce stress-là, tu l'as ressenti aussi pour ta deuxième date importante en 2003, l'inauguration de l'amphithéâtre de Grand dans les Vosges.
Oui, c'était une date importante puisque c'est à la fois un des premiers grands spectacles que je fais, vraiment, que je produis, que je gère, que j'écris, enfin vraiment la complète, si je puis dire. Et puis, c'est à ce moment-là que je fais aussi la rencontre de Robert Hossein, et que Robert Hossein, que je me fais le plaisir de prêter sa voix au spectacle,
prête
sa voix à ce moment-là, et on s'est rencontrés à de nombreuses reprises. Je suis évidemment devenu...
Il venait dans les Vosges aussi un petit
peu. Voilà, à Vitel, je suis devenu vraiment intime avec lui et avec sa femme Candice, que je vois d'ailleurs toujours très régulièrement. Donc voilà, c'est un personnage qui lui m'a beaucoup marqué parce que je trouve qu'il a été... il a aussi amené beaucoup de choses dans ses grands spectacles, etc. Tout en étant parfois et souvent même décrié par les gens qui disaient « Attendez, c'est plus du théâtre, on tombe dans... C'est galvaudé, c'est... » Non, non, il a réussi à faire venir des gens sur des pièces...
C'est quoi la critique qu'on envoie le plus à Damien Fontaine ?
Oh, ça pourrait être ça, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont vous dire que justement qu'un spectacle où se mêle justement toute cette part de théâtre, etc., bah, c'est pas...
Ça n'aurait peut-être
pas
lieu,
mélange des genres qui n'aurait pas lieu d'être. Si vous ne faites que de, finalement, là où j'aurais pas de critique, mais c'est pas, je suis pas là pour ne pas avoir de critique. Je suis là pour faire des choses qui me plaisent ou du moins ou tenter de faire des propositions. Ce serait de faire un spectacle. Vous faites un joli spectacle d'images avec de la musique et vous prenez même pas trop de risques. Vous prenez des musiques bien connues dans le répertoire classique et vous mettez des images un peu.
C'est ça.
Je sais pas moi sur du Vivaldi et vous mettez les Quatre Saisons. Je vous donne ça au hasard. Eh ben voilà, on dira c'est très joli, c'est très beau, mais finalement.
Il y a un parti pris artistique.
Il y a un parti plus artistique.
Philippe Tilliat, qui était à ta place il y a quelques instants, il y a quelques mois, qui a fait le spectacle Le Son et Lumière de Nancy, qui est très critiqué, le disait justement, c'est un parti pris. Enfin, voilà,
oui, effectivement, je connais bien leur travail. Ouais. Ils ont œuvré sur quelque chose qui est totalement différent. On est dans de quelque chose de très contemporain. Il faut accepter que les gens... Alors, les gens, forcément, font le rapprochement entre ce qu'ils ont vu précédemment ou pas, et font des comparaisons. Moi, je défends vraiment, encore une fois, cette idée d'un spectacle qui mélange énormément de genres, et c'est ce qui en fait vraiment la singularité.
Troisième date importante, et après, j'ai encore une dernière question, il nous reste 1:30. Troisième date importante
troisième
dans ta
date
vie, c'est 2008.
Oui, 2008, c'est la naissance de premier enfant, donc Maëlle qui est là, et je crois que voilà, la naissance de son premier enfant, ça ancre quelque chose dans la vie, voilà, c'est très important.
Ça veut dire quoi, ça ancre? Parce que là, t'avais une vie de patachon et de troubadour.
J'avais pas une vie de patachon, de troubadour, je crois pas. Enfin, en tout cas, on va dire que le domaine artistique, la carrière, c'est
ça
pas un mot.
Ça t'a fait du bien d'être papa?
Ah oui. Évidemment, et bah, ça m'a apporté beaucoup de paix, ça m'a rapproché de ce qui était essentiel dans la vie, une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Donc forcément, les enfants, on voit à travers eux des choses, alors pas forcément qu'on n'a pas réalisées, mais on se dit, voilà, c'est eux après qui vont prendre, pas forcément le flambeau de ce que j'ai fait, hein, mais qui vont aussi amener des choses dans ma vie à moi, dans leur vie à eux, et ça m'intéresse, oui.
Dernière question, qu'est-ce qui te rend heureux dans la vie ?
À ce qui me rend heureux dans la vie, bah, c'est ça, c'est tous ces petits moments de bonheur en famille, c'est des instants comme aujourd'hui où on est à la veille d'un spectacle où c'est ce bonheur qu'on peut apporter aux gens. Et puis on parlait de Nancy, cette fameuse phrase de Stanislas qui était de dire l'important c'est de rendre les gens heureux. Voilà, c'est ça. Et si on peut ne serait-ce que faire ça pendant une heure et demie à travers un spectacle, on a déjà gagné quelque chose.
Merci pour ce vrai bonheur.
I Feel Good sur RCN, Christophe Chevardet.
Et rien que pour les réseaux sociaux, vous avez droit au bonus de génie, c'est la question supplémentaire.
Mais juste papa, depuis ton premier spectacle jusqu'à aujourd'hui, tu penses que tu aurais fait combien de spectacles maintenant ?
C'est une bonne question. Alors, on a essayé de compter combien de gens avaient vu les spectacles, combien de personnes avaient pu assister à tous les spectacles que j'avais fait un peu partout. On a estimé, alors c'est une estimation hein, qui vaut ce qu'elle vaut, entre 13 et 15 millions. En tout. Mais des spectacles, je pense que oui, j'ai dû en faire une bonne centaine en tout. Oui, ça doit être ça à peu près. Oui, une bonne centaine, ça c'est sûr. Ouais. Peut-être 150, je sais pas. Mais après, il y a des plus importants que d'autres.
On peut faire le bonus de Christophe ?
Oui.
Il y a une question que j'ai oublié de poser, que j'avais envie de poser. C'était l'importance de ce spectacle d'Albertville, de Découflé, dans ta vie. Ça a été quand même un déclic, ça a été une envie d'agir, ça a été le challenge, je peux faire, j'ai envie de faire, je vais faire.
Oui, c'est quelqu'un, donc pour ceux qui connaissent bien ou pas, Philippe Découflé, donc chorégraphe, danseur, etc., qui finalement a amené dans cette cérémonie des Jeux Olympiques d'hiver d'Albertville, une poésie qu'on n'avait jamais vue avant, parce que jusqu'alors on avait beaucoup de choses technologiques, mais là il a amené une poésie supplémentaire, cette petite fille, enfin des tas de passages qu'on a peut-être encore en mémoire pour celles et ceux qui ont eu la chance de découvrir cette cérémonie. Et d'ailleurs toutes les cérémonies d'ouverture d'après, ouais, qu'elles soient d'hiver ou d'été, se sont très 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 largement inspirées de ce qu'il a fait là, bien sûr. Il a rebattu complètement les cartes.
On va voir avec Paris 2024 aussi ce que ça va donner. Hein. C'est le spectacle
tout
dans la
fait.
Rue. C'est... Merci.
Merci beaucoup, Christophe.
I feel nice, like sugar and spice.